sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi.
Ce soir, changer de thème et revenir à une thématique que j'avais abordée au mois de novembre sur la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Si nous avons si bien chanté ce soir et adoré le Seigneur et dit et proclamé « Seigneur, tu es là », c'est qu'il est vraiment là. Hein? Là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est avec nos amis sur Internet qui nous suivent. Il est aussi là où vous êtes. On est en communion d'esprit à distance. Parce que Dieu est là et Dieu est présent. Mais s'il est là, c'est pour quelque chose. C'est pour qu'on apporte l'adoration, mais c'est aussi pour qu'à un moment donné, on échange avec lui. On apporte notre prière. Et nous avons vu ensemble la dernière fois comment Jésus était entré dans le temple, qu'il avait purifié le temple des marchands du temple d'ailleurs. Il les a chassés. Suite à cela, une fois que le temple était purifié, il a guéri des lépreux, il a guéri des boiteux. Et puis, résultat immédiat, la louange est montée de la bouche des enfants. Et enfin, Dieu est obligé de venir dans nos vies aussi, de mettre un peu d'ordre, afin que nos prières deviennent efficaces. Et que finalement, on voit Dieu agir. Alors nous le louons, pas parce que nous le louons, mais nous le louons parce que nous le voyons agir. Nous le voyons agir et intervenir. Un jour, un des disciples, voyant la relation entre l'efficacité du ministère de Jésus et la vie de prière de Jésus, va lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Et dans Luc 11, nous lisons ensemble les versets 2 et suivants. Il leur dit, quand vous priez, c'est pas si vous priez, c'est quand vous priez. Il est attendu des disciples qu'ils prient. Quand vous priez, dites, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans Matthieu 6, il est rajouté ce verset, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et il rajoute, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, hé ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé du voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, on est déjà couchés, on est au lit, c'est terminé. Je vous le dis, quand bien même il ne se lèverait pas pour lui donner, il ne voulait lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, dit Jésus, et moi, je vous dis, demandez, il vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Quiconque, j'aime ce mot quiconque, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Aucun père digne de ce nom ne ferait ça. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et combien nous savons gâter nos enfants, hein? Et nos petits-enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Notre version dit, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. La prière à les plus belles promesses dans la parole de Dieu. Demandez et vous recevrez. Si parmi vous, deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque au Père dans le ciel, il leur donnera. Il y a là un océan d'exaucement qui sont attendus. Dans la mesure où nous demandons, où nous passons du temps dans la prière. Et je suis certain que pour beaucoup d'entre nous, nous avons fait l'expérience que quand la vie du Christ a fait irruption en nous, on avait le désir de prier. On avait ce désir. Mais au bout de 5 minutes de prière, vous vouliez prier. Vous dites, non, là ce matin, je vais prier. Vous vous mettez à prier pendant 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, et au bout de 10 minutes, on ne sait plus quoi dire au Seigneur. On est comme, on a fait le tour de la question. Ou alors, on se rend compte aussi qu'on a envie de prier, mais finalement, quand on se met à prier, on est fatigué. Ou le téléphone sonne. Alors chez moi, c'est incroyable, je me mets à prier, le téléphone sonne. Ou alors, des idées en tête, il faudrait faire ci. C'est comme si quelque part, quelqu'un avait toujours envie qu'on ne prie pas. À qui c'est déjà arrivé ça? Je peux voir un peu les mains. Ok, je ne parle pas dans le vide là, c'est bien. J'aimerais ce soir vous entraîner, vous emmener dans une découverte de la prière comme Jésus l'a enseigné. Et je voudrais vous informer que cette forme de prière que Jésus a enseignée est une espèce de vita parcours. Un parcours en 6 étapes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et la numéro 1, on loue Dieu. On démarre la prière en louant Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On invoque la volonté de Dieu sur nos vies, nos familles, nos propres pensées, nos regards, nos émotions, nos intentions, nos mobiles. Et puis après, 3e étape, on prie pour des besoins spécifiques. Donne-nous le pain quotidien. Puis enfin, on passe un temps aussi à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, à garder le cœur pur de l'amertume. Et puis enfin, on prie pendant un temps... La prière sur le domaine des tentations. Ne nous laisse pas céder à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et 6e point, on conclut comme on a commencé. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. On finit par la louange. Ça, nous avons commencé par la louange, ce culte, et on va le finir par la louange aussi. Et je nous invite à commencer nos cultes personnels dans la louange. Et puis à les finir dans l'adoration devant celui à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. J'aimerais nous dire ce soir que entre le moment où le désir de prier et le moment où on est dans ce moment de délice de la prière, il y a une phase intermédiaire qui s'appelle la discipline de la prière. Spurgeon disait, c'est vrai, on peut prier n'importe quand et n'importe où, mais je crains que ceux qui n'ont pas un temps défini de prière au quotidien prient guère. La prière est quelque chose qui sera toujours retenu, combattu par notre chair, mais aussi par l'esprit des ténèbres qui ne veut pas qu'on prie. Parce qu'il sait que lorsque nous commençons à prier, quelque chose se passe. Il y a une communication céleste qui se passe et Dieu vient envahir notre territoire. Lorsque nous prions, nous envahissons l'impossible. Lorsque nous prions, tout est possible. Des perspectives s'ouvrent devant nous. Quand nous prions, je vois Jérémy en face de moi, on a prié pour lui, il est encore là. Il aurait pu ne plus être là. Mais il est là parce qu'on a prié pour lui. Et tant d'autres fois, on a prié pour des gens, des personnes. On a prié pour soi-même et on a vu Dieu agir et Dieu réagir et Dieu intervenir à cause de la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Que cette maison ici ne soit pas seulement un beau temple, mais surtout un temple connu parce qu'on y prie. Parce qu'on y prie sérieusement, vigoureusement. Parce qu'on y prie avec ferveur. La prière fervente du juste, ça t'est dit avant, est d'une grande efficacité. Je voudrais que 2015 soit pour nous une année où nous développions, où nous retrouvions, où nous trouvions tout simplement une vie personnelle de prière qui est solide. Un chrétien qui prie est un chrétien fort. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien fragile. Et la prière nous maintient dans la communion avec Dieu. Alors comment prier ? Jésus va dire à ses disciples, prie ainsi. Ce soir, on sent l'étape numéro 1, qui est notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. J'aimerais qu'on puisse un moment peser ces mots. Notre Père. Lorsque nous prions, nous n'avons pas affaire à Dieu simplement, nous avons affaire à Dieu qui est devenu notre Père. Il est notre Papa. Le terme hébreu c'est Abba, c'est tendre Père. Nous avons affaire à quelqu'un qui nous attend et qui est ému à nous voir arriver dans la chambre en train de pour chercher sa face, qui est prêt à nous écouter, à nous entendre. Et il est aussi, qui est aux cieux. Je voudrais nous rappeler que Dieu n'est pas juste sur terre, il est au-dessus des choses et il voit les choses dans une autre perspective, de bien plus loin. Il est ce Dieu qui est assis sur le trône et qui règne et qui gouverne. Et même si des fois on a l'impression de prier et de ne pas recevoir de réponse, psaume 22 verset 1, on pourrait le lire ensemble, psaume 22 verset 1, le psalmiste démarre ainsi, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? L'autre verset dit, je prie et tu ne m'écoutes pas. Verset 2, pardon. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit et je n'ai point de repos. Mais il rajoute, pourtant, tu es le saint et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Même s'il défend... On a du mal à comprendre Dieu, pourquoi il ne fait pas comme on voudrait. Mais Dieu règne quand même, et il siège, et il est digne de notre louange. Et chaque matin, nous pouvons commencer par louer Dieu, par dire Seigneur, merci pour ton précieux sang qui m'a purifié de tout péché. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Merci de te connaître comme ton fils. Je suis devenu ton enfant par une nouvelle naissance. Merci Seigneur, parce que tu es devenu mon Père qui es aux cieux, et je te fais confiance. Et on lève les yeux. Je me sois vous rappeler simplement que Dieu s'est révélé par son nom. Il fait sec ici. Si j'avais besoin d'un verre d'eau, ce serait sympathique. Excusez-moi. Dieu s'est révélé par son nom. Jésus a dit dans Jean 17, versets 6 et 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Merci beaucoup. « Et que je sois en eux. » Jésus est venu nous faire connaître le Père, le nom du Père. Et il s'est révélé pleinement en Jésus-Christ, nom au-dessus de tout nom, nom par lequel nous avons accès à Dieu le Père, à son cœur. Excusez-moi, je bois un petit verre. Merci. Lorsque nous lisons la Bible, souvent nous trouvons en français que deux grands mots qui définissent le mot Dieu. Il y a le mot Dieu d'un côté et le mot éternel. Mais dans le terme hébraïque, le mot Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 1, et Dieu créa les cieux et la terre, c'est le mot Elohim. Elohim vient 35 fois dans Genèse. Et puis il est marqué, ce mot Elohim veut dire être fort, être puissant, être omnipotent. Autant dire, rien ne lui est impossible. C'est l'attribut particulier du Créateur qui est capable d'amener à l'existence à partir de rien. Parce que Dieu a fait le monde, il l'a fait à partir de rien du tout. Il n'y avait rien, mais il l'a fait à partir du précieux rien. Et quand on n'a plus rien, c'est une chance, parce que Dieu peut faire à partir de rien, ou de trois fois rien. Avec deux poissons et cinq pains, il a fait à manger pour 10 000 personnes. Dieu est capable à partir de rien, il est le Tout-Puissant, il n'y a pas de limite. Il est illimité. Dans la forme plurielle, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, El Olam, Dieu de l'éternité, dans Genèse 21, verset 33, El Haï, Dieu vivant, dans Josué 3, 10. Un autre terme pour Dieu en hébreu, c'est aussi le terme Adonai, qui veut dire le Seigneur. Ce mot revient 499 fois dans l'Ancien Testament. C'est le Dieu souverain qui nous fait ressentir au fond de nous un sentiment de dépendance à l'égard du Créateur. Et puis il y a le terme Yahvé, le titre de tétragramme hébreu, Il n'y a pas de voyelle, on dit Yahvé ou Yahvé ou Jéhovah, les mots s'équivalent. Le mot Yahvé exprime l'essence de Dieu, un Dieu de rédemption et d'alliance. C'est Yahvé Elohim qui a contacté l'homme après la chute. Et Yahvé est résumé dans cette réponse qu'a donnée Dieu à Moïse qui lui demandait « Mais lorsque j'irai voir le peuple, sous quel nom je te présente ?» Exode chapitre 3, versets 14 et 15. Exode 3, versets 14 et 15, si vous l'avez. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Il est l'auto-existant. Il existe par lui-même. Il se suffit à lui-même. Il est celui qui est. Il n'a jamais dit « il a », il a dit « il est ». Et dans le Nouveau Testament, on retrouve cette même formulation dans la personne de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais dit « j'ai un chemin à proposer ». Il a dit « je suis le chemin ». Il n'a jamais dit « j'ai un berger à proposer ». Il dit « je suis le berger ». Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la vie. On peut pas dire ça autrement et mieux que celui qui dit « je suis celui qui suis ». Lorsque nous prions, il est bon de se rappeler à qui nous nous adressons et de savoir quelle est la dimension de ce Dieu auquel nous nous adressons. Et ce Dieu, il a une multitude de facettes et il s'est révélé plusieurs fois dans la Bible, sous différentes facettes. Et ce soir, je voudrais mettre en comparaison avec vous, devant vous, entre le Dieu qui se révèle dans ce testament sous différentes facettes, et Jésus-Christ qui lui aussi, il a une personnalité multifacette, mais qui fait qu'un. Par exemple, on trouve cette notion de justice, que l'Éternel est notre justice, dans Jérémie 23, chapitre 6. Jérémie 23, verset 6, on pourrait lire ça ensemble. Jérémie 23, verset 6, c'est une prophétie, verset 5 déjà, une prophétie qui est donnée là. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » En parlant de Jésus-Christ. « Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Et en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura pour la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, le germe, l'Éternel, notre justice. Lorsque je me place devant Dieu le matin, lorsque je viens devant lui en tant qu'enfant de Dieu, eh ben je peux me souvenir avec à raison que l'Éternel est ma justice. Que ce n'est pas moi qui vais devoir faire des efforts pour être juste devant lui, mais il me déclare juste dans la mesure où j'ai placé ma foi en Jésus-Christ qui a payé pour mon injustice. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il est marqué. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je peux louer Dieu le matin de bonheur, ou en entrant dans la présence de Dieu, le louer en me souvenant que ce n'est pas à moi de faire l'effort d'être juste devant Dieu, mais Dieu m'a rendu et déclaré juste parce que j'ai placé ma confiance en lui. Et je peux le louer, revêtu de la justice de Christ. Yahvé Tsitkenu, Yahvé Mkadesh, dans Lévitique chapitre 20, verset 8, Dieu parle sous son peuple. Et il lui dit de sanctifier. Et voilà ce qu'il dit. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et nous avons lu il y a un instant justement que Jésus-Christ a fait pour nous sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que lorsque je suis donné à Christ, l'Esprit Saint habite en moi. Et parce qu'il habite et vit en moi, il me pousse à la sainteté. C'est lui qui me retient de faire des mauvaises choses et qui me pousse à faire de bonnes choses. C'est lui qui me retient de parler en mal et qui me pousse à louer Dieu. C'est lui qui m'empêche d'être injuste et qui me pousse à marcher avec droiture et justice. L'Esprit Saint est en nous. Yahvé Makadesh, l'Esprit de Dieu habite en moi et il me rend juste et il me sanctifie. Et je peux le louer pour cela. Ce Dieu qui me rend juste, ce Dieu qui me sanctifie, mais c'est aussi ce Dieu qui me donne la paix. Yahvé Shalom, fameux shalom de Dieu. On trouve cette évocation, ce nom dans Juges 6, versets 1 à 24, on se rappelle de Gédéon, ce juge, qui a été suscité par Dieu pour libérer Israël des Madianites. Et lorsqu'il l'aura délivré, on trouve dans Josué, chapitre 1, 6, pardon, Juges 6, verset 24. Verset 24, merci, on va tout lire. Merci beaucoup. Bout du chapitre. Juges 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. L'Éternel paix. Lorsque je peux louer Dieu parce qu'il me donne sa paix. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Non pas une paix comme le monde donne, Jean 14, verset 27, mais ma paix. Ma paix. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, en décrivant le Christ qui allait naître, Ésaïe le prophète s'écrit ainsi, Ésaïe 9, verset 5, pas forcément le bon chapitre, mais en tout cas, en parlant de la naissance du Christ, Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est donné, un fils est né, un enfant nous est donné, et la domination repose sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je ne sais pas quelle version vous avez, les frères, mais dans Ésaïe 9, verset 5, à la page 522, dans ma Bible, il est marqué ceci. Voilà. Je répète, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le Dieu que tu sers est le Prince de la paix. Et là où tu vas aller, il peut t'accompagner et il va t'accompagner par sa paix et avec sa paix. Une paix qui dépasse toute intelligence. Nous avons la paix avec Dieu par la foi en Christ, mais aussi la paix de Dieu en nous. Et je peux louer Dieu parce qu'il est ma paix. Il est ma paix. L'autre aspect de Dieu encore, c'est sa présence. Il est ici, dans Ézéchiel 48, verset 35. Ézéchiel 48, verset 35, en parlant d'une cité qui va venir, la cité de Jérusalem, et il fait cette prophétie suivante, et il dit la chose, Ézéchiel 48, verset 35, « Et dès ce jour, le nom de la ville sera, l'Éternel est ici. » L'Éternel est ici, et nous avons célébré, il y a 3 semaines environ, que la venue de Dieu parmi les hommes, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est présent chaque jour avec nous. Et avant de partir au ciel, Jésus a promis qu'il serait avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et donc je peux être certain le matin quand je prie que Dieu sera là aujourd'hui. Il n'y a pas un jour où il manquera l'appel. Il n'y a pas un jour où il ne lâchera d'une semelle. Dieu est présent jour après jour, dans les bons et dans les mauvais jours. Dieu reste présent, il reste fidèle et il reste avec nous. Et je peux le louer pour cela, je ne suis jamais seul. Peut-être solitaire, mais jamais seul. Dans Exode 15, verset 26, on découvre encore une autre facette de l'Éternel. Yahvé, Rapha, on est dans l'épisode de Mara. Israël vient de sortir d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils chantent de joie, ils sont contents, heureux, la délivrance, et puis ils font 3 jours de marche dans le désert, et là, il n'y a plus d'eau, et quand ils trouvent de l'eau, c'est de l'eau saumâtre, amère. Et Moïse va jeter un bâton dedans, symbole de la croix, et l'eau devient douce, et ils boivent de l'eau douce, et ils se désaltèrent. Et l'Éternel se révèle là comme le Dieu qui guérit. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Vous avez l'air convaincu, franchement. Je suis l'Éternel qui te guérit. Notre Père qui es aux cieux est l'Éternel qui me guérit. Et en Jésus-Christ, cette vérité s'est accomplie. Ésaïe 53, versets 4 et 5, nous lisons ensemble. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Non seulement nous avons dans la croix, ou dans la vie du Christ qui a donné la croix, le salut pour nos âmes, mais aussi la guérison de nos corps. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, selon 1 Pierre 2,24. Et puis enfin, il y a une autre facette encore de Dieu, qui est celle de ce Dieu qui pourvoit nos besoins. Ce Dieu qui veut nous donner de réussir nos vies. Quand je dis réussir, c'est pas forcément être millionnaire, mais que notre vie fonctionne et que ça marche bien. Dans Genèse 22, verset 14, on se souvient de ce moment où Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils. Et puis, il monte sur le mont Morija, et au moment où il veut l'offrir, où il est prêt à offrir, il est prêt à mettre sur l'autel la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Pour prouver à Dieu qu'il aime Dieu plus que la bénédiction. Et Dieu l'arrête. Et Dieu l'arrête. Et finalement, Abraham lève les yeux et voit un bouc qui s'est pris les cornes. Il le prend et il l'offre en sacrifice. Parce qu'à la montagne, l'Éternel y sera pourvu. Voyez-vous, l'image, et Abraham va appeler ici Dieu la chose suivante, il va dire, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous pensez sincèrement que Dieu ne savait pas ce qui allait se passer à la montagne? Dieu avait vu le problème qu'allait avoir Abraham. Et Dieu avait déjà prévu une solution. La solution était non pas que son fils meure, mais que le fils soit remplacé par un animal. Ce qui me laisse penser que le Dieu que nous servons, Jéhovah Jiré, ou Yahvé Jiré, est le Dieu qui prévoit et qui pourvoit à tous nos besoins. Dieu, le mot Jiré veut dire prévoir et en même temps veut dire pourvoir. Il y a un double sens dans ce mot Jiré. À la fois, il est le Dieu qui prévoit à l'avance et qui pourvoit. Voyez-vous, lorsque Adam et Ève ont chuté, Dieu ne s'est pas dit, oh mince alors, maintenant on fait quoi? Il n'a pas fait une convocation du triumvirat, Père, Fils, Saint-Esprit, pour dire, maintenant, les amis, on fait quoi là? Il y a un ratage dans le plan, là. Oh non. Dans l'Apocalypse, il y a un verset étrange qui dit « L'agneau immolé avant la fondation du monde. » C'est pas possible. Il a été immolé il y a 2000 ans. Oui, il a été immolé effectivement il y a environ 2000 ans. Mais dans la pensée de Dieu, le plan de la rédemption avait déjà été imaginé avant même que le monde n'ait été fondé. Autrement dit, Dieu avait prévu ce coup-là avant même qu'il n'arrive, parce que Dieu est Dieu, il est éternel, et il voit le début à partir de la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me laisse croire et me laisse penser que le Dieu que nous servons ensemble est le Dieu qui a conçu nos vies, qui en a dessiné les contours, et qui, avant que les problèmes n'arrivent, a déjà prévu une solution, et pourvu à une solution. C'est pourquoi, même dans nos pires difficultés, nous pouvons lever les yeux et oser croire que Dieu a une solution nouvelle, même des fois inédite. J'imagine Moïse avec son peuple devant la mer des roseaux, la mer rouge, et derrière lui, l'armée égyptienne, armée jusqu'aux dents, prête à les massacrer. Et maintenant, on fait quoi? Et Dieu intervient. Dieu rentre dans l'équation. Et tout à coup, un vent souffle et ouvre et trace une tranchée dans la mer Rouge. Et par derrière, il met une colonne de feu, une nuée. Et il vient retenir les Égyptiens. Il leur démonte les roues. Il s'embourbe même. Qui aurait imaginé ça? Mais qui aurait imaginé ça? Je me rappelle lorsqu'on avait, à l'époque, connu le contrôle fiscal. Et je me souviens le nombre de fois où Père Pajan est venu nous voir, Sam et moi. On faisait des papiers, on réfléchissait, on priait ensemble. Et je me rappelais les nombres de fois où il est venu nous voir au bureau. Et il nous voyait, non pas trembler, mais en même temps, on était, ouais, un peu inconfortable. Et il nous disait, c'est votre église? Non, mais quand même. Hein. Alors Dieu va s'occuper de l'église. Et nous, on faisait les papiers, les documents, enfin, avec Gérard et d'autres. J'étais moins là-dedans tous les jours, mais en tout cas, je vivais de près avec Sam ce côté difficile. Et quand des fois, nous, on tremblait un petit peu, on était un peu irrité intérieurement par les débats, par les résultats des dossiers, il revenait et disait, c'est votre église. Sauf que c'est notre... à la fin du mois, c'est nous qui... Bref. Et il me rappelle cette phrase, un jour, il nous a dit, mais Dieu pourvoira. Et il me rappelait ce verset qui disait, sur lequel il a fondé l'Église, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Même pas le fisc. Moi, j'aime ce côté. Mais sincèrement, si vous m'aviez dit que le Premier ministre allait 6 mois plus tard annoncer Yo de France Info que toute association en cours de contrôle fiscal qui avait été reconnue comme de bonne foi verrait son redressement abandonné, mais jamais j'aurais cru ça. Sincèrement, on était au bout du bout du bout du bout. Mais Dieu pourvoit. Mais Dieu pourvoit. Mais Dieu pourvoit. Je me rappelle cette anecdote, je l'aime parce qu'elle m'a tellement marqué. C'est une des premières fois où je me suis rendu compte que Dieu pourvoyait mes besoins. J'étais à l'époque à Grenoble, objecteur de conscience, et puis j'avais un petit pécule de côté, j'avais bossé un peu avant, dans l'enseignement, et puis j'avais dit à Dieu en partant, à partir de maintenant, pendant ces 2 ans, je ne toucherai pas cet argent. J'ai entendu dire que tu es père. Alors, puisque tu es un père, je veux compter sur toi et je te fais confiance. Mais je ne toucherai pas spécule et aussi je ne demanderai de l'argent à personne. Et je me rappelle lorsque je suis arrivé à Grenoble, une des premières choses que Dieu m'a poussé à faire, et j'ai eu du mal, hein, ça, hein, il m'a dit, donne-moi la dîme. Je dis non. Non. Je gagne 3 fois rien. En tant que projecteur de conscience, je gagnais 2400 francs. J'avais ma charge, une partie du loyer de l'appartement, l'assurance de la voiture, entretien de la voiture, enfin tout le reste, quoi. J'ai dit non, je peux pas, c'est pas possible. Et puis qu'est-ce que ça fait 240 francs sur un budget annuel d'une église qui en avait des milliers et des milliers et des milliers, centaines de milliers. J'ai dit attends, non. Ça me laissait plus tranquille. Mais j'étais pas tranquille. À la fin, j'ai dit, allez, j'ai fait un chèque, au centime près, un chèque. J'ai dit, tiens, voilà, c'est comme ça, t'es tranquille, moi je suis tranquille aussi. C'est quand j'étais pas riche que j'ai appris à donner. Allô? J'ai dit, ok, Seigneur, je Je ne suis pas riche, mais je te donne avec confiance. Même si des fois, j'ai du mal à donner. J'ai du mal à donner. Puis voilà qu'un jour, j'avais plus trop d'argent et il faisait froid à Grenoble, c'était cet hiver-là. Un gros froid, 86-87, faisait très très froid. Et je commençais à avoir des jeans qui commençaient à s'user. Et j'avais des jeans qui commençaient à trouver ici, vous savez, là. Et comme je traduisais à l'église, j'étais un peu gêné là, sur l'estrade et de traduire avec un jean troué. Donc, un matin, je me suis mis à prier. Père, moi je me rappelle, faisait froid. Je m'étais levé tôt, faisant nuit. Et j'ai prié, j'ai dit, Père, viens à mon secours, il me faut un pantalon. Ah oui, ça, quand vous n'en avez pas, c'est important un pantalon. Donne-moi un pantalon, et j'ai prié, et je m'entends prier, donne-moi un pantalon en velours. Ah, bien chaud. Côtelé, je me suis dit pourquoi ça. Brun, à pince, et un Lee Cooper. Ah ouais. Alors moi qui ne suis pas du tout attaché aux marques, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu pries là? Donc j'avais ce pantalon brun, velours côtelé, à pince, et Lee Cooper en tête. Et j'avais fini de prier, j'étais tranquille. Puis je suis allé à l'église et voilà que le frère qui s'occupait d'abord de son vêtement m'aperçoit. Il avait 52 ou 3 ans, comme moi aujourd'hui. Je trouvais un peu vieux jeu et il me dit, Claude, j'ai vu que tu as un peu les trous dans les jeans et je t'ai trouvé un pantalon. Et je me suis dit, ah non, pas lui. Avec ses goûts qu'il a, lui, non, c'est pas possible. Donc, par déférence et par respect du grand âge, je l'ai suivi. J'avais 23 ans à l'époque, voilà, donc c'était un grand âge. Et donc je l'ai suivi et intérieurement j'ai commencé à échafauder un argumentaire pour essayer de gentiment le remercier de ce cadeau qu'il me ferait, mais dont je n'avais pas forcément envie parce que ses goûts n'étaient pas les miens. Mais je vois cet homme se diriger vers l'armoire et il sort un sachet plastique blanc et tout à coup il me déplie un pantalon velours côtelé brun. Et il me fait comme ça, et il est à pince. Et je lui dis, Saint-Lee Cooper. Et je lui dis, je suis sûr qu'il me va. Je me le suis mis et je l'ai gardé. Il n'allait pas perfection. Je suis l'Éternel qui pourvoit. Il est celui qui prévoit et qui pourvoit. Des fois, nous sommes comme anesthésiés ou paralysés par les problèmes qui peuvent nous arriver. On se dit, waouh, maintenant je fais quoi? Ben, lève les yeux. Celui que tu sers et que tu aimes de tout ton cœur a déjà, savait que ça allait arriver et a déjà pourvu à une solution. Je pourrais vous raconter encore des histoires. Vous en voulez encore une?
Oui.
J'avais une 4L à l'époque. Ah ouais, la 4L, celle-là m'a marqué aussi. Vous aussi, vous m'avez marqué? Ouais, celle-là m'a marqué. Cette 4L, elle était belle, ouais. Parce que là, elle est morte depuis longtemps. Hein. Mais cette 4L, que j'avais comme emmenée avec moi de l'Alsace à Grenoble, voilà qu'elle avait un bruit bizarre qu'elle faisait. Et tout à coup, un jour, les vitesses ne passaient plus. Alors, je vais voir le garagiste, j'ai dit, ça fait combien? Il m'a dit, 5000 francs. J'ai pas 5000 francs. Enfin, si, je les avais, mais j'ai dit, je ne toucherai pas cet argent. Et j'ai prié. Je dis, Seigneur, maintenant, je fais quoi, là? Et puis, j'ai un frère ancien, Rivière, Christian Rivière. Il me dit, écoute, si tu veux, on va voir ça. Et on s'est couché à Grenoble, au mois de novembre, par un froid glacial, sous le trottoir, sous la voiture. J'ai dit brrr. Et moi qui avais des doigts d'instituteur, je les ai mis dans le cambouis. J'ai appris à me salir les mains. Ça m'a fait du bien. Et puis il me dit, écoute, on va faire une vidange. Et en faisant une vidange de l'huile de boîte, il y avait de la limaille de fer qui est tombée. Il me dit, peut-être un problème qui s'est passé avec une des vis. Et effectivement, on a démonté, pour ceux qui sont un peu mécanos, les 4L, Il y avait une boîte qui sortait de devant, au-dessus un couvercle, avec une longue tige qui était reliée au manchon avec lequel on passait les vitesses. Et donc on a dévissé ces 12 vis, le nombre en tête, 12 vis, on les a dévissés, et effectivement, une vis qui tenait une fourchette de transmission, et c'était défaite, et était partie dans la pignonnerie. Et on s'est dit, bon ben écoute, alors elle a été meulée par les pignons, et puis elle est partie en limaille, et c'est fini. Alléluia, on était contents. Je suis allé chercher une vis, et un bidon de 2 litres d'huile, 51 francs 80. Ah, ça change le 5000, hein? Ah oui, oui. C'est bien des francs, mais c'était beaucoup d'argent. Et donc, je remonte la vis, mets tout en place, je ferme le truc, et ça marche, content, merci Seigneur, au lieu de 5000, 51 francs 80, alléluia, gloire à Dieu. Sauf que 3 jours après, je me retrouve boulevard Gambetta, à Grenoble, au feu rouge, et j'entends un bruit bizarre. Bon, je me suis dit, c'est bizarre, hein. Et donc, je m'entends prier, Seigneur, s'il y a un problème dans la boîte de vitesse, fais-le monter à la surface. Parce que dans 15 jours, je pars en Alsace et je traverse la Suisse. Et si des fois, en Suisse, je tombe en panne sur l'autoroute, ça me coûte un saladier. Et donc, je fais peut-être 60 mètres. Première, deuxième, troisième, et hop, ça ne me rétrogradait plus, ça ne m'avançait plus, c'était bloqué. Donc je suis allé en troisième en faisant siffler l'embrayage jusque dans la cour de l'église. Là, j'ai enfilé mon bleu de travail, j'ai sorti la clé de 13, j'ai enlevé les 12 vis et je soulève ce couvercle. Et donc, on se rappelle, il y avait une fourchette qui était accrochée par une vis à ce couvercle. Donc je soulève le couvercle, je fais comme ça et je vois une vis coincée dans le coin avant-gauche. Je me suis dit, mince alors, mais alors... Ma vis n'a pas tenu, et je regarde le couvercle, elle était dedans. La nouvelle était dedans, mais l'ancienne était remontée de la pignonnerie et était allée se loger dans un coin où elle ne pouvait plus rien faire. Et là, l'amour de Dieu est descendu sur moi. Les mains dans le cambouis, dans le grand froid, j'ai commencé à pleurer de voir que Dieu était capable de prendre soin d'une vis métallique au fin fond d'une pignonnerie, d'une voiture, d'un objecteur de conscience fauché, afin qu'il puisse rentrer à la maison tranquillement 15 jours après. Il est Yahvé Jiré, celui qui prévoit et celui qui pourvoit. Une dernière histoire, après je m'arrête des histoires. On était jeunes mariés, Caroline était étudiante, moi j'étais jeune pasteur ici. Et voilà, on avait la paye qu'on avait, mais il y avait aussi besoin de faire un logement plus grand, etc. Et alors, on avait cherché des logements et rien n'allait. Je veux dire, dans le sens, financièrement, on n'arrivait pas à louer un logement. Donc je me suis retrouvé à 30 ans, à presque 30 ans, à habiter avec ma femme, chez ma belle-mère. Moi qui avais vécu seul des années, alors on avait bien une petite aile pour nous, on avait une chambre à coucher pour nous, une salle de bain pour nous, mais le reste c'était tout en commun. Et ça m'agaçait au possible. Alors j'ai commencé à prier, j'ai dit, mais Seigneur, mais comment Seigneur, il faut que tu me secours. Et donc on a prié, et puis voilà que j'avais à cœur de demander à mon beau-père, et si on mettait au-dessus du garage un appartement? Il me dit, mais écoute, ça fait longtemps qu'on a pensé à cela, mais comme personne ne voulait rester, on n'a jamais fait. Je dis, écoute, j'ai la paix pour te demander de le faire. Est-ce que je peux t'aider? Mais on va financer. Il me dit, ok. Peu de temps après, il me dit, non, on va nous le financer, et puis vous payerez un loyer. Je dis, ok, comme tu veux. On fait les plans et tout, on a enfin les plans, et quand on veut démarrer, le beau-père tombe au chômage. Mais en même temps, il a eu une prime. Plus de 25 ans de bons et loyaux services. Et cette prime a permis de payer tout le logement. Et non seulement cela, mais le beau-père, il a eu, pendant une petite année, le temps avec mon père qui au même moment est tombé en pré-retraite. Ils ont pu me faire tous les travaux sans que ça me coûte trop. Sincèrement, s'il eût fallu synchroniser le financement du projet avec l'arrivée de deux ouvriers performants et qualifiés, en pleine force de l'âge, capables de faire le travail à un prix imbattable, c'était ce qu'il fallait faire. Il est Yahvé Jireh. Il est celui qui prévoit et qui pourvoit à nos besoins. Colossiens 2, verset 10. On peut lire ça ? Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez absolument tout pleinement en lui. Et généralement, on résume ce verset à des choses spirituelles. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons tout pleinement en lui. Et la justice, et la sainteté, et la sagesse, mais aussi la paix, mais aussi sa présence, mais aussi sa providence divine. Mais aussi sa guérison divine, aussi son secours divin, aussi sa force dans les moments difficiles. Et nous avons tout pleinement en lui. Je vais terminer par peut-être un des plus beaux aspects, une des plus belles facettes de Dieu. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est l'image d'un tendre berger qui prend son agneau sur ses épaules, sa brebis sur ses bras, qui la serre contre lui, qui prend soin, qui la soigne, qui la dirige, qui la guide près de verpâturage, près des eaux paisibles, qui l'accompagne dans les temps difficiles, dans la vallée de l'ombre de la mort. Jésus a dit, « Je suis le bon berger. » Jean 10, verset 10. Et donc, je reviens à ce parcours de prière. Il se peut que votre temps de prière, comme c'était mon cas à moi pendant longtemps, c'était des temps difficiles. J'avais envie de prier, mais c'était difficile de prier. J'avais envie de prier, mais au bout de 10 minutes, c'était déjà cuit. Jésus, là, nous apprend un parcours de prière. Et il nous propose une première étape dans la prière. Elle peut être plus ou moins longue, mais un temps où nous levons les yeux. Où nous ne commençons pas à nous précipiter, à demander des choses, mais où nous nous précipitons à lever les yeux vers celui qui est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et je me souviens qu'il est l'Éternel ma justice, qu'il est ma sainteté, et que jour après jour, il travaille en moi à ma sainteté. Jour après jour, il pourvoit à des situations où il travaille à ma sanctification. Jour après jour, il fait en sorte que j'apprends à être patient. Des fois, nous prions, Seigneur, rends-moi patient, mais tout de suite, s'il te plaît. Et il envoie des gens difficiles à supporter. Devenez patient. Hein? Il y en a qui rigolent, là, c'est bien. Et puis, je continue à louer Dieu parce qu'il est présent. Parce que je peux être sûr qu'aujourd'hui, dans cette journée, il sera présent. Même dans les jours d'examen du bac, ou du DUT, ou de tout ce que vous voulez, ou du permis de conduire, il est présent. Même dans les temps difficiles ou à la maison, c'est difficile. Mais tu es présent, Seigneur, et je te loue pour ta présence. Tu l'as promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je continue à le louer parce qu'il me guérit de mes maladies, à la fois physiques mais aussi de l'âme. Il me guérit de l'orgueil, il me guérit de mon manque d'humilité. Il travaille dans ma vie et je le loue pour cela. Il en est digne. Même si des fois je n'ai pas de réponse à la prière, je le loue quand même parce qu'il en est digne. Il est assis au milieu des louanges de son peuple. Et puis je le loue parce qu'il pourvoit à mes besoins. Je l'ai vu tellement de fois faire cela. Mais tellement de fois il est intervenu. Et tellement de fois je l'ai vu où il m'a surpris par des réponses que je n'entendais pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et puis enfin, il est mon berger. Je suis peut-être sûr qu'il me conduit, que sa main est toujours sur ma vie, ses regards me suivent nuit et jour. Et il me conduit par sa bonne main, près des eaux paisibles, sur le vert pâturage. Et même quand je traverse la vallée d'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Quand vous priez, peut-être commencez ainsi, par louer Dieu. Première étape, on loue Dieu. Alors, des fois, on ne sait pas comment le louer en français. Alors, prenez des cantiques. Prenez les cantiques. Quand on dit ce soir, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Et vous le chantonnez. Seigneur, tu es là. Et vous, des fois, je prends ma guitare à la maison et je chante à Dieu tout seul dans mon bureau. Je dis, Seigneur, c'est pour toi maintenant que je chante. Que pour toi. Je suis amoureux de toi. Je te chante ce cantique avec une voix mal chauffée, mais je chante quand même. Et je l'adore. Et je le loue. Et tout à coup, sa présence remplit le bureau. Et après, je peux aller plus loin. Et commencer à prier pour que sa volonté soit faite dans ma vie. Dieu nous connaît. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Alors commençons non pas par le prier, lui demander, mais commençons par le louer et l'adorer. Et en faisant ceci, on rentre dans le repos de Dieu. On rentre dans la présence de celui qui dit, je suis ta justice, ta sainteté, ta paix, je suis présent avec toi, je suis ton médecin, ta providence, ta bannière, ton berger, je suis ton tout. La question est simple ce soir. Je la pose simplement. Est-ce que Dieu est votre Père? Si Dieu est votre Père, alors je vous invite à faire de la prière une activité principale de la journée, une activité incontournable, une activité qu'on ne rate pas sous aucun prétexte, un rendez-vous qu'on ne manque pas. Alors pour les gens qui sont des hiboux, à prier la nuit. Pour les gens qui sont des hirondelles, priez le matin. Pour d'autres, faites le matin, midi, soir, comme Daniel, le prophète. Mais priez. Prenez-vous un temps de prière. Permettez que votre vie soit une vie de prière. Un disciple qui prie est un disciple qui est fort. Un disciple qui ne prie pas est un disciple fragilisé. Le diable connaît ses disciples fragilisés et il cherche à les dévorer. Permettez-vous que cette année 2015 soit vraiment une année où vraiment, vraiment, eh bien la vie de prière devient une priorité. Où à la fin de l'année, vous pouvez dire « j'ai progressé dans ma vie de prière ». J'ai progressé, pas seulement en termes de longueur de prière, en termes de temps, de longueur de temps, mais en même temps en termes de qualité, où vous vous retrouvez avec Dieu. Commencez par le louer le matin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré dans ma vie, que ton nom soit honoré par une vie droite que je mène. Et là où j'ai dérapé, Seigneur, relève-moi, aide-moi. Mais la question est profonde. Est-il votre Père? Par déduction, souvent, nous pensons qu'il est le Père de tout le monde. Ce n'est pas vrai. On n'est pas tous enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, puis il y a des créatures de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais pas tous enfants de Dieu. On devient enfants de Dieu, par choix. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, je termine là-dessus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière du monde, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parmi nous ce soir, il n'y a que deux types de personnes. Il y a les sauvés et les perdus. Il y a ceux qui sont enfants de Dieu, sauvés, qui sont nés de nouveau, dont le nom est inscrit dans le livre de vie, et puis il y a les perdus. Qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas encore la paix avec Dieu. Ils ont déjà été exaucés de Dieu, et je crois que Dieu exauce des gens. Quand le malheureux crie, l'Éternel exauce. Et en même temps, à un moment donné, il faut choisir Dieu. Choisir de devenir enfant de Dieu, naître de nouveau, naître d'en haut, recevoir la vie du Christ en nous. Et ça commence par un moment donné, par une prise de conscience où on se dit, mais je suis un pécheur, j'ai péché, il faut que je me repente, il faut que je change de vie. Et que j'accueille le Christ au fond de moi. Si ce n'est pas encore fait, ce soir, je voudrais vous donner l'occasion de le faire rapidement. Courbons nos fronts, nous prions ensemble. pendant que les musiciens arrivent, les chanteurs aussi. Gardons nos yeux fermés, nous prions un instant pour celles et ceux qui sont au bord, qui sont au seuil de la porte du royaume de Dieu, qui sont au bord du chemin étroit qui mène à la vie. Pendant que Bernard joue ce cantique, Seigneur, tu es là, tout simplement, avec douceur, avec peu de volume sonore. Puis-je demander ce soir, parmi nous y a-t-il quelqu'un, quelqu'une, qui n'a encore jamais fait la paix avec Dieu, qui peut-être apprécie la présence de Dieu, qui apprécie la présence des croyants, qui apprécie de venir en ce lieu, mais qui n'a encore jamais consciemment fait la paix avec Dieu, qui n'a encore jamais repenti de ses péchés, qui n'a encore jamais reconnu qu'il ou elle est pécheur ou pécheresse, qu'il a besoin d'être sauvé de sa vaine manière de vivre. Si ce soir vous êtes là dans cet état-là, alors je vous invite à faire la paix avec Dieu. Et en signe, je vous invite à lever la main en disant, moi je veux faire la paix avec Dieu ce soir, je veux devenir son enfant, je veux pouvoir appeler Dieu mon Père qui est aux cieux. Il y en a d'autres qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Oui, madame, oui, mesdames. Il y en a que d'autres qui savent qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Qui ont besoin de devenir des enfants de Dieu. Chez qui il y a besoin que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure. À ces amis qui ont levé la main, Seigneur. Je te prie de poser ta main sur eux ce soir. Et je te demande que ce soir soit une soirée de changement. Soit pour eux une soirée où ils passent de la mort à la vie éternelle. Où ils passent des ténèbres à ton admirable lumière. Où ils deviennent des enfants de Dieu. Où la vie de Dieu fait irruption dans leur vie. Où ils sont saisis par ton esprit. Et où ton esprit atteste à leur esprit qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Je te prie, Seigneur, ce soir, qu'il y ait une communication de vie qui s'opère dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Merci, Seigneur. Amen. La prière est la plus belle des promesses. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Soit nous voulons aller devant le trône de Dieu en louant ensemble, mais aussi en permettant à ceux qui ont des besoins de s'approcher des frères. Et avec les frères, nous prierons pour les malades et pour les divers besoins qui sont les vôtres. Et j'invite les personnes qui ont levé la main de s'approcher dans la foule de ceux qui cherchent la prière, qui demandent la prière et de dire aux frères, j'ai levé la main, je veux connaître Jésus, je veux avoir la paix avec lui, je veux avoir la vie éternelle. J'invite les frères à se lever, enfin les frères qui prient pour les malades, à s'approcher, les pasteurs, etc. Et nous allons prier pour les malades et prier pour celles et ceux qui ont divers besoins, au-delà des maladies. Ce soir, je veux croire qu'il y a un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qui donne du travail à celui qui a perdu son travail, qui donne de la paix dans la maison où il n'y a pas de paix, qui apporte des solutions dans des situations inextricables. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et pendant que nous chantons, Seigneur, tu es là, j'invite les différentes personnes qui souhaitent la prière à s'approcher des frères et à prier avec eux.